starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, cinquième et dernière partie de notre épisode consacré à Robert Menzies, le premier ministre australien qui est le plus longtemps resté au pouvoir dans l'histoire du pays. On va s'intéresser évidemment aujourd'hui en particulier aux dernières années de sa vie et au bilan qu'il laisse derrière lui, puisqu'il s'agit d'une figure tutélaire de la droite australienne dont l'empreinte est encore visible aujourd'hui dans la politique actuelle. Très bonne écoute à tous. Bon, alors, quittons l'Algérie pour revenir sur nos pénates australiennes. Donc vous disiez effectivement, les années 50 et 60, c'est vraiment une période de grande prospérité économique pour l'Australie, et Robert Menzies, lui, reste fondamentalement libéral. Néanmoins, comme il y a quand même de l'argent, il y a quand même quelques réformes sociales qu'il va mettre en place, en particulier en direction des aborigènes, mais aussi en matière de santé, et vous le disiez tout à l'heure avec la construction de nombreuses universités, en matière d'éducation également.
Oui. D'ailleurs, quand on regarde les universités australiennes, vous avez le Group of Eight, hein, les meilleurs, l'équivalent de la Ivy League en Australie, qui sont les universités les plus anciennes. On parle aussi de sandstone parce que le matériel est noble et c'est généralement des anciens bâtiments qui sont construits comme ça, donc l'université de Sydney, de Melbourne, etc. Et le grand moment des expansions des nouvelles universités, c'est dans la période d'après-guerre, donc ça commence un peu avant Menzies. Mais sous Menzies, vous avez Monash, Flinders, enfin, il y a toute une palanquée d'universités qui sont créées dans ces années-là parce que il faut éduquer les Australiens, parce que s'il y a de l'industrie, il faut des ingénieurs, parce que il faut des enseignants, parce que il faut des médecins. Et donc effectivement là-dessus, bon alors c'est pas l'université publique, hein, il faut encore payer, ça viendra plus tard, mais enfin ça donne accès à l'éducation à beaucoup plus d'Australiens qu'avant. Donc ça, c'est quand même un progrès social majeur, mais aussi Menzies, il s'assure que les anciens combattants aborigènes aient des droits, aient le droit de vote par exemple, et aussi des pensions. Il y a des petites réformes ça et là sur le mariage des années 60, sur les impôts. Enfin, c'est des il avance par petits pas, mais quand on prend la mesure de ce qu'il a compris entre 1949 et 1966, c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte sur l'Australie, qui vraiment l'a propulsé dans la seconde moitié du XXe siècle.
Autre élément à mettre au crédit de Robert Menzies, on a parlé dans le précédent épisode de la jeunesse de Gough Whitlam dans une Canberra à peine naissante, où il y a quand même vraiment pas grand chose. C'est toujours assez vrai dans les années 40 et 50, et c'est sous l'impulsion de Robert Menzies que Canberra va devenir, peut-être pas une métropole, faut pas exagérer, mais enfin une ville digne de ce nom quand même.
Oui, un peu moins une verrue, oui. En fait, si vous voulez, dans les années 20, la Canberra, la capitale, se développe. Elle a été choisie en 1913. Il y a la fédération de 1901 qui dit qu'il y aura une nouvelle capitale. Donc ça passe de Melbourne à Canberra, puisque Melbourne et Sydney n'arrivaient pas à se mettre d'accord. De même, on a fait un épisode là-dessus. Et donc, Canberra est choisie, mais ça piétine, quoi. Ça n'avance pas beaucoup. Il y a des grands projets. On fait venir un architecte américain et sa femme qui dessinent les plans. Ça se met en œuvre, mais ça avance pas vite. Et puis après, il y a la crise de 29. Ça avance encore moins vite. Pendant quelques années, c'est en ralentissement. Et puis, passe la Seconde Guerre mondiale. Donc là, au début des années 50, il y a des revenus fiscaux assez importants, donc il y a moyen de faire des travaux. Donc on finit le lac à Canberra, qui n'en était pas un, on creuse, on embellit Canberra, on construit d'autres bâtiments publics, et effectivement, il en fait une capitale qui soit digne de ce nom. Ça a été important pour Menzies, et je crois que Canberra lui a bien rendu, puisqu'il y a une statue où il apparaît comme assez sympathique, où il est en train de marcher, il est debout, juste à côté du lac Burley Griffin, du lac Burley Griffin, qui porte le nom de l'architecte qui a fait la construit la ville de Canberra, et qui est, il fait pas tout à fait face, mais enfin il est dans l'axe où on voit le Parlement, l'ancien Parlement dans lequel il travaillait, puisqu'il est du côté du lac, côté New plutôt que de l'autre. Mais enfin, si un jour vous avez l'occasion de faire le tour du lac, ce qui est très joli, vous verrez probablement la statue de Robert Menzies, justement parce que il a été le premier ministre qui a réellement investi dans Canberra.
Alors, finalement, il quitte le pouvoir en 1966, il a 71 ans et après effectivement 17 ans à la tête du gouvernement, on peut comprendre qu'il estime avoir fait son temps. Mais ce qui est plus surprenant, c'était donc il y a quasiment 60 ans, et Robert Menzies reste à ce jour le dernier Premier ministre à avoir quitté le pouvoir par sa propre volonté et non pas suite à un échec électoral.
Oui. Encore l'analogie de Gaulle, quoique bon, il y a eu le référendum, mais enfin c'est quand même lui qui a choisi de quitter ses fonctions. Effectivement, je pense qu'il y avait aussi un peu l'usure du pouvoir, mais enfin il n'a pas perdu les élections, hein, puisque c'est son parti, le Parti libéral, qui continue à être au pouvoir entre 66 et 72. Donc il y a quand même Holt, McEwen et comment il s'appelle ? Enfin bref, il y a plusieurs premiers ministres de droite qui lui succèdent. C'est-à-dire que techniquement, toute chose étant égale par ailleurs, il aurait pu rester premier ministre pendant encore plusieurs années. Mais l'âge, la santé, c'est quelqu'un qui a donné quand même sa vie à la carrière politique et à servir son pays. Donc il aspirait aussi peut-être à autre chose. Et il part en Grande-Bretagne quelques années avant de revenir en Australie, et puis il décède dans une des banlieues de Melbourne, je crois.
Ouais. Alors justement, c'est le point que je voulais aborder. Il va décéder en 1978. Et comme pour John Curtin, ce premier ministre travailliste qui s'est vraiment illustré pendant la Deuxième Guerre mondiale, au point d'ailleurs que peut-être cette charge a fini par le tuer. Pour les funérailles de Robert Menzies, il y a énormément de monde qui vient assister à son enterrement. Monsieur et Madame tout le monde, on peut comprendre, il a marqué leur vie, il a été dans leur vie pendant près de 20 ans, mais il y a aussi des figures politiques de l'ensemble de l'échiquier, à droite évidemment, mais également à gauche, et il y a même la reine Elisabeth II qui se rend en Australie spécialement pour l'enterrement de Robert Menzies.
Là, il va falloir qu'on accorde nos violons, parce que je sais que le prince Charles est venu, qui représentait sa maman. De mémoire, la reine Elisabeth envoie un télégramme pour exprimer son profond regret du décès de Menzies. C'est quelqu'un qui l'avait très bien accueilli quand elle était venue en Australie, à plusieurs reprises. Et donc, c'est autant elle a vu de nombreux premiers ministres en Grande-Bretagne, autant pendant le début de son règne, le premier ministre en Australie, c'était toujours Menzies, et ça se passait plutôt bien avec lui, puisqu'il était un fervent royaliste.
Autant pour moi, j'ai dû m'embêler les pinceaux, j'étais en train de revoir, et effectivement, elle n'a pas assisté physiquement à son enterrement, elle a envoyé un courrier très chaleureux, mais elle n'était pas présente. Bon, de toute façon, les funérailles, peu importe. Si vous voulez, je vais reformuler. Je vais pas basculer directement sur la dernière question que j'avais, juste en précisant qu'il est mort en 78.
D'accord.
Alors, Robert Menzies, donc, qui va mourir 12 ans après avoir quitté le pouvoir, en 1978, pour lui aussi, il y aura des milliers de personnes, en fait, qui vont se recueillir au moment de son enterrement. Et puis, on l'a dit au tout début, Robert Menzies, c'est vraiment un petit peu l'un des pères fondateurs de la droite australienne et du Parti libéral en particulier. Je vous ai demandé au tout début de l'émission si c'était un petit peu le De Gaulle australien. On sait que le général De Gaulle, il a beau être mort il y a plus de 50 ans, les hommes politiques, et d'ailleurs pas seulement de droite, se réfèrent à lui quasiment en permanence. Est-ce que la même chose est vraie en Australie? Est-ce que Robert Menzies, son parcours, la façon dont il a fait de la politique, ça guide encore les membres actuels du Parti libéral, plus largement de la coalition, bref, de la droite australienne? Est-ce que Robert Menzies, ça reste une référence ou c'est juste un homme du passé qui a marqué l'histoire, mais dont le modèle est peut-être plus adapté à la façon de gagner des élections, de faire de la politique aujourd'hui, si toujours.
Non, c'est le parrain. C'est effectivement le parrain pour la droite. C'est quelqu'un qui est plutôt décrié à gauche parce que très conservateur, très passéiste, très Grande-Bretagne, très royaliste, mais dans les cercles du centre droit, de la droite modérée ou de la droite voire même un peu plus conservatrice, c'est la grande figure. Comme De Gaulle, il a quitté le pouvoir avec ses termes, c'est-à-dire qu'il est parti, il n'a pas continué. Alors que, comme on l'a dit, la droite est restée encore au pouvoir 6 ans. Il a écrit ses mémoires aussi. C'est marrant, on trouve quand même des liens entre ces deux hommes qui, je ne sais pas s'ils se sont jamais rencontrés d'ailleurs. Tout ça pour dire que, effectivement, c'est le parrain du rassemblement de la droite, comme De Gaulle l'avait été en son temps, avec bien évidemment beaucoup de gens issus de la résistance, mais Chirac, comment dirais-je, le grand ingénieur politique s'il en est, c'est toujours, comment dirais-je, présenté comme un héritier, bon, pas tout à fait au début, mais enfin, de Gaulle et Sarkozy. Pareil, alors que finalement, c'est pas du tout comparable. C'est pas du tout comparable. La droite sociale qu'on voit sous De Gaulle, elle semble plutôt de gauche aujourd'hui, si vous voulez. On peut pas transposer les époques et les courants politiques comme ça. Mais les politiciens, vous l'avez rappelé, le font parce qu'en fait, il y a un capital sentimental attaché à ces grandes figures, que ce soit De Gaulle en France ou que ce soit Menzies. Et puis l'avantage des morts, c'est qu'on peut leur faire tout dire. On voit aussi des personnalités de droite citer Jaurès. Bon, enfin, vous voyez, c'est tout à fait pratique. Effectivement, Menzies reste une de ses grandes figures. Il y a de nombreux tableaux, de nombreuses. Enfin, il demeure assez présent mémoriellement dans le paysage politique australien. Et c'est vrai qu'une fois qu'il a quitté la politique, il a été assez actif dans tout un tas d'organisations, surtout des organisations universitaires, en étant chancelier, vice-chancelier, voilà, ces choses-là, et en continuant à donner des discours publics sur tout un tas de sujets. Il a eu des belles années de fin de carrière parce que il rappelait aux Australiens une période comment réussi de leur histoire, un peu comme le président Giscard qui a vécu très longtemps, beaucoup plus que Menzies, mais qui par rapport au tournant de la rigueur après sous Mitterrand, c'est facile d'être révélé d'un bon souvenir quand vous rappelez aux gens une période qui leur était plutôt propice.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Romain Fati pour un nouvel épisode très fourni sur ce monsieur, Robert Menzies. On se retrouvera très prochainement pour parler d'un autre homme politique australien. Ce sera le travailliste Bob Hawke, qui lui a été Premier ministre pendant une bonne partie des années 80 et sous l'exercice duquel de très nombreuses réformes ont été mises en place en Australie. Merci encore Romain et merci à tous de nous avoir écoutés.
Je vous en prie, à très bientôt. Merci Louis.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.